God, don't tell me.
Le show du matin, week-end.
Ah, let's go, I'm so let's go,
Avec Carbo.
Radio X.
Dans la mission de faire connaître des gens dans le show du matin week-end, ben, j'ai avec moi un auteur 10 ans à prêter sa plume et autant de livres publiés, tirés à plus de 100 000 exemplaires par année à travers la francophonie. Monsieur Patrick Pelletier, lui, partage son talent et ses idées avec certains des plus grands écrivains de notre époque. Et pour en jaser de sa carrière et de ses réalisations, bien, on l'a avec nous. Bonjour, Monsieur Pelletier.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien. C'est tôt, tout va bien.
Ben, c'est tôt, oui, c'est tôt, mais l'avenir appartient à celui qui se lève tôt.
Exact.
Vous êtes un fervent défenseur du dépassement de soi et de l'authenticité, M. Pelletier. Vous écrivez. Ça commence quand dans votre vie, ça, l'écriture?
Oh, l'écriture, ça date de mon adolescence, je dirais. Mais c'est devenu sérieux, vraiment, il y a 10-12 ans à peu près. Quand j'ai été lauréat de 2 concours d'écriture, okay. Parce que ben, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, donc avant d'être publié sous mon nom, je voulais voir un peu si ça allait intéresser quelqu'un.
Est-ce que c'est réglo, est-ce que c'est pratique courante d'écrire pour d'autres?
Alors ça, c'est venu par la suite. Justement, après ces deux concours là, que j'avais gagnés, j'ai été contacté. Je connaissais pas du tout ce métier-là hein, d'écrivain fantôme, puisque c'est de ça dont on parle.
Oui.
Donc j'ai découvert ça en même temps que j'ai été formé et sélectionné, je dirais. Puis ça m'a amené à être le souffleur ben, d'histoires célèbres, mais tapis dans l'ombre. Ce que j'ai adoré faire d'ailleurs, parce que je ne faisais qu'écrire, sans les à côté de ce métier, pour lesquels ben, je pense que j'étais pas prêt à ce moment-là dans tous les cas, donc c'était le bonheur absolu.
On parle d'un parcours qui est inattendu. Vous êtes installé au Québec depuis 2010, M. Pelletier. Puis personne, je pense, aurait imaginé que vos textes, bien que signés par d'autres, seraient traduits en plus de 10 langues. Là.
Donc, non, moi le premier, je ne m'y attendais pas, mais quand c'est des noms célèbres, ben, les ventes, je dirais, suivent pas mécaniquement, mais on s'attend à un produit fini de qualité habituelle, donc j'ai beaucoup de respect d'ailleurs hein, moi pour ceux dont j'ai enfilé le costume afin que mes écrits ressemblent à s'y méprendre au leur, parce que ce sont de vrais écrivains bien entendu, et ils écrivent aussi directement de leur côté, ils font pas appel à nous à chaque fois.
Est-ce que c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on le pense, des écrivains fantômes, dans le sens où, mettons, on lit un auteur? Quel serait le pourcentage de chance environ, selon vous, que ce soit pas lui qui a écrit le texte qu'on lit?
Ça serait compliqué de vous donner un pourcentage, mais moi, de toute façon, dans tout ce que je partage, ça concerne essentiellement uniquement l'Europe. À ma connaissance, il n'y a pas d'écrivain fantôme de ce niveau-là au Québec, par exemple. Mais en fin d'année dernière, quand moi j'ai arrêté, pour la francophonie mondiale, nous étions moins d'une dizaine, 8 ou 9, je crois, de mémoire. Donc, on ne peut pas fournir pour tous les auteurs de renom, c'est clair. C'est pour ça que je vous disais que la plupart des livres sont écrits directement par eux. Mais après, de là, donner un pourcentage, ça serait assez difficile à mon niveau.
Puis pourquoi un écrivain se tourne vers un écrivain fantôme? Faire de l'argent sans travailler?
Ouais, c'est pas l'écrivain. L'écrivain lui-même qui prête son nom, hein, en fait, est pris dans un système. On assiste de nos jours à un système qui s'est emballé au niveau de la parution des livres. Les lecteurs eux-mêmes sont pris quelquefois en otage parce qu'ils sont poussés à se tenir à jour, comment dire, des nouveautés de leurs auteurs favoris, quitte à accumuler des piles de livres. On le voit avec les versions numériques qui sont téléchargées, donc achetées. Il y a au moins 30% de ces versions-là qui ne sont jamais lues. C'est notre société de consommation qui est faite ainsi. Et après, ben, les auteurs de renom, ils ont une vie, ils sont en promo plusieurs semaines ou plusieurs mois par an. Pour écrire un livre, le processus complet, c'est long, ça après un an. Hein. Pas juste la phase écriture, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Donc ces gens-là, ben, ils ont des vies de famille, il faut qu'ils vivent. Et la cadence est devenue infernale. Et puis c'est un petit peu ce qui a motivé ma prise de parole également, d'ailleurs.
Oui, oui, exact. Je faisais des recherches dans votre métier. J'ai été très étonné de voir que, par exemple, tiens, les Trois Mousquetaires ont été coécrits justement par un écrivain fantôme.
Oui.
C'est pas d'aujourd'hui, là.
Non, non, ça date de 1844 de mémoire, au 19e siècle. C'était Auguste Maquet, mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, au 19e siècle, donc, c'était connu, reconnu. Auguste Maquet était le collaborateur de Dumas, officiel, je dirais, son écrivain fantôme. Mais plus proche de nous, dans les années 87, il y a un scandale qui a éclaté au Los Angeles Times avec un papier en juillet 87 concernant Lou Durand qui écrivait 100% de certains livres d'un auteur qui s'appelait Sulitzer, Paul Lou Sulitzer, qui a quand même vendu 40 millions d'exemplaires dans, ouais, dans sa carrière. Donc régulièrement, le métier devient opaque, les gens oublient. Merci d'en parler, parce que souvent ce sont les médias qui n'en parlent plus aussi. Hein.
Et pourtant, c'est pris dans très important dans de faire une lumière là-dessus, c'est important de le savoir.
Ben, je crois que toute l'industrie du livre n'est plus rien s'il n'y a pas de lecteur. Donc je crois profondément, je prends le risque en tout cas, qu'il faut dire la vérité aux gens, et dans le cas précis, au lectorat. La preuve, c'est que la fameuse affaire dans les années 87 de Sulitzer, quand ils ont, je dirais, été démasqués, l'éditeur et l'auteur lui-même ont fait amende honorable. Ils ont été obligés d'avouer, en fait, après que le scandale ait éclaté. Et à la suite de ça, les ventes ont continué, elles n'ont pas diminué.
C'est
donc
drôle,
ça prouve que quand on dit la vérité aux gens, ça marche.
Ça peut être payant aussi. Là, voilà, maintenant qu'avec Connecté, avec honnêteté, vous faites la lumière sur ce métier-là. Et là, votre œuvre, c'est signé de vous. Donc là, c'est du Patrick Pelletier.
Oui, c'est ça. Avec la profondeur du lac, ben j'ose aller de l'avant. Parce que comme je vous dis, avant, je pense que dans tous les cas, je n'étais pas prêt. Donc l'écriture fantôme, je crache pas dans la soupe. Hein. C'est quelque chose qui me correspondait, qui était une chaussure pendant des années parfaitement adaptée à mon pied, j'oserais dire. Mais là, maintenant, je suis prêt. Puis, c'est quand même déstabilisant parce que j'ai les premiers retours de lecture. Puis, quand j'entends ou je lis que de certains lecteurs, ils ont l'impression que les personnages de mon roman sont assis à côté d'eux, ben c'est assez déstabilisant, je dois dire, encore. Mais j'embrasse ça avec... un plaisir immense, quoi.
C'est quand même... Moi, je trouve ça mystérieux, le métier d'écrivain fantôme, parce que l'œuvre, en réalité, c'est la vôtre. Elle est signée de quelqu'un d'autre, mais c'est la vôtre, c'est votre histoire, c'est votre plume, c'est vos termes, vos mots. Je trouve ça plate que vous puissiez pas jouir du succès, tiens, d'un best-seller, d'un livre directement. C'est indirectement que vous allez avoir un certain succès. Mais directement, je trouve ça triste de passer notre vie à travailler sur des œuvres, des projets, mais sans être capable de soulever la coupe.
Ben, je suis d'accord et pas d'accord parce que, oui, pour être écrivain fantôme, il ne faut pas avoir un ego démesuré. Ce qui, entre parenthèses, devrait être le cas de tous les écrivains. Encore une fois, même l'écrivain le plus perché, le plus connu, il faut garder un grand respect du lectorat parce que sans les lecteurs, on n'est rien. Mais en même temps, vous disiez c'est notre histoire, c'est pas tout à fait exact. Les histoires nous sont proposées, on part d'une base de synopsis, on doit suivre un fil conducteur, donc c'est quand même assez guidé, centré. Et puis, nous sommes des caméléons, parce qu'en plus de se mettre dans la peau de nos personnages comme n'importe quel écrivain, il faut qu'on arrive à adopter le style d'écriture de l'auteur pour qui on écrit. Son phrasé.
Ouais, c'est vrai. Faut se fondre dans lui.
On chante dans la gorge de quelqu'un d'autre, en fait.
Exactement.
Pour reprendre vos paroles. Donc, c'est nous sans être nous.
Oui. Pour apprendre vos paroles, c'était de lever le voile sur une pratique qui existe depuis longtemps sans trahir pour autant la magie de la lecture. C'est quelque chose. C'est, moi, vous dire honnêtement, je vous lève mon chapeau.
Ben, écoutez, merci, mais c'est aux lecteurs qu'il faut... C'est les lecteurs qu'il faut remercier parce qu'ils accueillent les livres avec émotion. Et puis, c'est ça notre but, qu'on soit écrivain fantôme ou écrivain sous son nom. On doit être en prise de risque maximale tout le temps. Et puis, quand on arrive à déclencher une émotion ou à faire exploser l'imaginaire de l'autre, ben, on est content, quoi.
Ben, vraiment. Mais moi, mon idée ce matin, c'était de faire connaître votre métier, l'écrivain fantôme. Et puis là, il y avait des gens qui vont se dire, ah, mais ça existe, ça, ce métier-là.
Oui, ben, ça existe depuis... en tout cas, on arrive à remonter jusqu'au 19e siècle. Il y a de nombreux exemples hein, au fil des années. Mais régulièrement, le métier devient plus opaque. Donc, moi, je voulais lever le voile un petit peu de nouveau. Je ne suis pas le premier à le faire. Sur un métier réel, mais invisible par période. C'est ça. Mon but, c'est de poser le dossier sur la table avant tout. Par respect, encore une fois, envers ce lectorat. Dans un temps où nous baignons dans les apparences. Voilà. C'est pas forcément de me mettre en valeur à titre personnel, en tout cas en tant qu'écrivain fantôme. J'espère le faire maintenant sous mon nom avec le roman La profondeur du lac et le prochain que je suis en train d'écrire. Mais quel est le prix de la vérité? Je crois qu'il faut, surtout de nos jours, oser le défi de ne pas plaire à tout le monde, ne pas vouloir plaire à tout le monde et d'être juste soi-même, en fait.
Voilà. Eh bien, merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui. Et est-ce qu'on ferme la porte à écrire Fantôme encore ou maintenant on signe nos œuvres?
Ah, moi, maintenant, je suis parti sous mon nom. C'est une décision que j'ai pris en concertation avec ma famille l'an dernier. Et je tiens le cap, fébrile, mais les premiers retours de lecture de cette histoire d'une fillette qui touche le cœur d'un homme éteint, avec la profondeur du lac, elle m'encourage à poursuivre, en tout cas.
J'ai une dernière question. Comment ça fonctionne, les droits d'auteur?
En tant qu'écrivain fantôme?
Oui.
Ben, à un niveau professionnel, de la même manière que sous son nom. C'est en pourcentage de droits d'auteur.
OK.
En sachant que les auteurs, en général, qu'ils soient sous leur nom ou fantôme, ont toujours le plus faible pourcentage, hélas, mais le système est comme ça, par rapport aux maisons d'édition, aux distributeurs, aux libraires, qui sont des grosses structures, hein, je remets pas ça en cause, mais c'est ça, c'est exactement le même système. Mais après, on peut trouver dans certaines agences littéraires, alors ça par contre, il y en a aussi au Québec, les accompagnements en écriture.
Okay.
C'est un autre niveau d'écriture fantôme. On n'est pas chez Auguste Maquet pour les Trois Mousquetaires, par contre.
Avec émotion, l'écriture fantôme, pour vous, c'est un travail accompli. Qu'est-ce qu'on pense de l'écriture avec l'intelligence artificielle?
Alors, l'intelligence artificielle, il faut, comme toute nouvelle technologie qui arrive, hein, comme Internet au début, il ne faut pas essayer de la repousser, la freiner à tout prix, parce qu'elle arrivera, elle est déjà là. Mais... il faut peut-être démystifier, voir pourquoi on peut en avoir peur, quels sont ses avantages, quelles sont ses dérives, comme tout produit nouveau.
Ben oui.
Je dirais que le roman est à l'abri peut-être plus que d'autres écrits, parce que la spécificité du roman, c'est qu'on décrit les émotions, on ne les explique pas. Ça n'est pas de l'écriture journalistique, par exemple, où on explique des faits. Et l'humain est pas mal irremplaçable à ce niveau-là.
Heureusement.
Oui, heureusement, parce qu'on se souvient des premiers films de science-fiction où les robots remplaçaient les humains, quoi.
Ouais,
ça fait quand même peur. Et ce qui nous caractérise quand même pas mal, c'est notre aptitude à vivre des émotions fortes.
Exact. Merci beaucoup, M. Pelletier, d'avoir pris le temps d'expliquer votre métier. Et d'avoir pris le temps, surtout, si tôt, un dimanche matin.
C'est moi qui vous remercie, et merci à vos auditeurs aussi de nous écouter.
Une bonne continuité.
Merci. Bonne journée.
Au revoir. Bon. Tu sais, on y pense pas, là. Un bon livre, là. Un bon livre, mais c'est peut-être pas celui qui l'a signé, qui l'a écrit.
Des fois, probablement même qu'il y a des œuvres qu'on considère comme des chefs-d'œuvre à l'international qui ont gagné des prix puis tout.
Ben, pense aux Trois Mousquetaires.
Ben oui, mais même plus gros que ça, là, moi je pense peut-être à des Harry Potter, à des affaires de même, on le sait pas. Là,
on sait pas.
Après ça, l'écrivain va ramasser les grands honneurs pour ça, puis il y a quelqu'un peut-être chez eux qui regarde sa TV puis qui est genre. Hein,
c'est moi qui l'ai écrit en camisole dans le coin.
Ben, t'sais, ça, c'est
moi qui l'ai écrit.
Pour des chansons aussi, ça arrive souvent.
Ouais.
Tu sais, il y en a eu là, plein d'histoires.
Ben, comment est-ce qu'il y a du Maurice qui se font écrire le joke par d'autres?
Ben oui. Mais
comment est-ce qu'il y en a?
C'est des chansons, entendre. Des fois, il y a des chansons qui ont été chantées par d'autres mondes.
Ouais.
Tu sais, Milli Vanilli, c'était ça, là.
Ah oui, hein?
Tout ça, c'était de la bullshit.
Oh.
Après ça, c'est-tu Corona, genre, que la chanson, là, c'est tout ça, t'as peu? Donne-moi deux secondes.
Corona?
Mais,
la chanson Corona?
Non, mais The Rhythm of the Night, ça, là.
Oh,
c'était
oui.
Pas la fille qu'on disait qui chantait. C'était non. Quelqu'un d'autre.
Ah, oh, ouais?
Oui.
C'est bon, ça.
Ouais. En tout cas, je me rappelle.
Ben là, laisse-les. On va s'en aller à la pause avec ça.
Ben oui.
Parce qu'au retour, sais-tu quoi?
Quoi?
Renaud Labrec is in the house.
Ah, oh, ouais.
Oui.
Du matin. Weekend.
Radio X.